Capobec.
Ave good nil.
Moulia bim, pap koumè sa.
Nous donne appétit. Oustol.
Rad. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un légume qui nourrit les Chinois. Non, ce n'est pas le riz, c'est le chou. Rencontre avec Sandrine, qui nous expliquera comment elle partage sa culture familiale, principalement venue du Sud, autour de la table, avec ses 5 enfants, malgré son travail. Et enfin, Marie nous expliquera quelques trucs et astuces autour des laitages.
Petite balade dans le potager gourmand. Bonjour Philippe, aujourd'hui nous allons reparler d'un légume que nous avons déjà évoqué, mais il y a beaucoup à dire, surtout qu'il est assez méconnu, c'est pas le plus aimé en particulier des enfants, le chou.
Bonjour Sophie, c'est vrai, le chou mérite qu'on en reparle. Nous avons évoqué son histoire, sa composition, les bienfaits nutritionnels qu'il peut apporter. Nous allons maintenant nous intéresser au côté pratique et à son utilisation. Alors, d'abord, comment choisir un chou ? Eh bien, d'une manière générale, choisissez-le toujours bien lourd et bien dense, avec des feuilles très serrées, fermes, brillantes, que vous devez sentir crisser sous les doigts. Sachez que le chou de Milan possède des feuilles plus tendres, à choisir donc plutôt pour être farci. Mais si vous souhaitez le déguster en crudité, vous préférerez alors plutôt un chou très ferme, très serré. Sa conservation, tout simplement dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Il n'est pas spécialement fragile, il pourra y rester une semaine. Pour le consommer, il faudra tout d'abord le parer, le laver, de la même manière qu'une salade. On retire le trognon, on le débarrasse de ses feuilles abîmées. S'il s'agit d'un chou à feuilles cloquées, il est préférable ensuite de le couper en quatre pour le blanchir quelques minutes dans une eau bouillante bien salée. Cette opération le rend en effet beaucoup plus digeste. Petit conseil, il sera d'autant mieux toléré par les intestins si vous avez pris la précaution d'ajouter quelques graines de cumin ou d'anis vert dans l'eau de cuisson. Il est parfait pour s'incorporer dans une soupe ou une potée bien réconfortante, notamment avec des pommes de terre. Les Portugais en font une variante qu'ils nomment caldo verde. Il se prête également très bien au braisage et aime particulièrement l'association avec le lard ou les lardons, avec lesquels il peut d'ailleurs constituer un excellent gratin. Pensez aussi à utiliser ces grandes feuilles comme récipient. Vous pouvez réaliser de jolies aumônières en déposant au centre une farce ou une mousse à base de poisson ou de chair à saucisse, puis en refermant cette petite bourse à l'aide d'une branche de ciboulette. Les plus habiles d'entre vous s'amuseront à le farcir entier, en s'inspirant peut-être de la recette niçoise qui mélange du riz à du petit salé et des œufs, les capounes. Le chou aime les préparations aigres-douces. Il accompagne volontiers la pintade, le veau et le porc lorsqu'il est braisé. Cuit à la vapeur, il préfère le poisson, comme la lotte et le haddock, par exemple. Lisse, qu'il soit blanc ou rouge, vous le dégusterez certes cuit, mais il est vraiment idéal quand vous le râpez ou vous l'émincez finement pour les salades de crudité. Là aussi, le mélange sucré-salé peut faire merveille. Par exemple, mélangez aux lanières de chou une pomme granit, vous la râpez et un oignon émincé. Ajoutez pourquoi pas quelques raisins secs et faites ainsi le plein de saveurs originales et fraîches. Sachez enfin que c'est une variété de chou qui est à la base de la fameuse choucroute. Blanchi et cuit au vin blanc ou au champagne selon des méthodes traditionnelles, il est ensuite conditionné pour pouvoir parvenir jusqu'à votre cocotte. Là, avec des baies de genièvre, du vin blanc, des pommes de terre, un bel assortiment de bonnes charcuteries bretonnes, vous le transformerez en ce plat typiquement alsacien, convivial et si apprécié avec une bonne bière.
La choucroute se marie bien aussi avec le poisson pour rester proche de nos rivages.
C'est vrai. On peut le manger idéalement avec du poisson ou des poissons fumés, comme le haddock. Je vais vous donner une petite recette, facile à faire et toujours très agréable à manger car elle est très fraîche, qui nous vient de nos amis britanniques, la célèbre coleslaw. Pour 4 personnes, vous prenez un quart de chou blanc, une ou deux belles carottes, un oignon blanc. Pour la sauce, vous prévoyez 3 cuillères à soupe bombées de mayonnaise, 3 cuillères à soupe de lait ou de crème liquide à 15%, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, riz, vin blanc, cidre, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, une ou deux pincées de sel. Vous râpez les légumes et vous mélangez les ingrédients pour faire la sauce, vous mélangez, vous laissez au frais une heure au moins. Votre plat se conservera ainsi de 1 à 3 jours. Une petite recette pour finir ?
Une petite recette pour finir.
Allez, une soupe pour maigrir. Pour 6 personnes, prévoyez un demi-chou vert, 3 poireaux, une branche de céleri, 2 carottes et 6 tomates, 3 oignons, 3 poivrons, un navet, 3 gousses d'ail, un bouquet garni, une pomme de terre pour pouvoir lier le tout, du sel et du poivre. D'abord, vous couperez tous les ingrédients en morceaux. Dans une cocotte ou un grand faitout, vous mettrez ces ingrédients coupés, vous couvrez avec de l'eau, vous poivrez, vous cuisez environ pendant 1h30 à couvert. Au bout de ces 90 minutes, vous retirez du feu, vous faites passer la soupe et vous la mixez pendant environ 2 minutes, puis vous ajoutez un peu de sel, mais pas trop.
Vous nous garantissez qu'elle fait maigrir ?
Oh là !
À bientôt, merci, au revoir.
Oustoul, Capoubet.
Have a good meal.
Moulia bim, pas comme ça.
Bon appétit.
Sandrine, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes mère de famille, 5 enfants, mariée depuis 20 ans, et vous faites actuellement préparer un doctorat, pour être exact, en sciences de l'éducation. Alors je vais peut-être vous laisser nous expliquer exactement ce que sont les sciences de l'éducation et faire le lien avec la transmission en matière de bien boire et bien manger.
Alors les sciences de l'éducation, d'abord c'est sciences au pluriel, c'est-à-dire qu'on va interroger cette question de l'éducation qui accompagne chaque homme dans son parcours, qu'il soit éduqué ou éducateur, tout au long de sa vie. Et donc les sciences de l'éducation, c'est une façon d'interroger cette éducation du point de vue de la philosophie, du point de vue de l'anthropologie, qu'est-ce que c'est que par rapport à l'homme, du point de vue de la didactique, c'est-à-dire l'exercice au quotidien de ce jeu qui va se jouer entre le maître, l'enseignant, l'élève, l'apprenant et le savoir et les compétences. Du point de vue de l'histoire aussi, du point de vue de la sociologie, comment ça se passe dans différentes couches de la population, dans différents pays, à différents moments de l'histoire de l'homme. D'autres abords aussi du point de vue, par exemple, de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Voilà ce que sont les sciences de l'éducation. Ce regard croisé, finalement, permet d'aborder le sujet en n'étant pas polarisé sur le point de vue médical, pathologique, la psychanalyse ou la psychologisation de l'enseignement, ni du point de vue historique qui nous éloignerait finalement du concret, etc., ni sur le point de vue technique aussi du jeu. Donc ça permet d'avoir une approche très pragmatique.
Alors, on va aborder justement un sujet éminemment pragmatique, le boire, le manger, comment est-ce que ça se transmet, ou du moins, comment vous l'avez vécu au quotidien. Vous avez 5 enfants, donc c'est déjà une problématique que vous avez rencontrée avec vos enfants, puis peut-être avec vos propres parents.
Alors, pour relier avec cette question du doctorat, j'en suis arrivée au doctorat parce qu'avant, j'ai fait un master de sciences de l'éducation. Le sujet de mon master, c'était comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce qu'on a envie de transmettre et comment est-ce qu'on fait pour ne pas transmettre ce qu'on voudrait ne pas transmettre. Tout le monde constate que les gens qui sont alcooliques, très souvent, transmettent l'alcoolisme à leurs enfants. Les gens qui sont violents transmettent cette violence à leurs enfants. Et ça, même s'ils n'ont pas en projet de transmettre ces douleurs avec lesquelles ils vivent. Mais on transmet aussi toutes sortes de choses, des angoisses, des inquiétudes, une inquiétude par rapport à l'argent, par rapport à la nourriture, etc. Et en même temps, il y a des choses qu'on aimerait transmettre et qu'on peut avoir du mal à transmettre. Et donc, pendant ce master, je me suis posé toutes sortes de questions par rapport à ce que moi-même, je vivais dans ma famille. Et cette question de la nourriture s'est posée, parce qu'à l'époque, mes enfants étaient jeunes, et je me disais, oulala, tout ce que j'ai reçu de ma famille, est-ce que je vais arriver à le transmettre ?
Vous avez beaucoup reçu de votre famille, c'était un sujet important ?
Alors, justement, étrangement, j'ai reçu de ma famille, mais pas par la voie ordinaire. Ma maman travaillait et donc je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents, mes grands-oncles, mes grands-tantes. J'étais baladée d'un foyer à l'autre et ces gens-là étaient bien empêtrés avec une petite jeune fille qui était toute seule. Donc, il n'y avait pas de cousins forcément chez les grands-oncles et les grands-tantes. Et qu'est-ce qu'on faisait pour l'occuper ? Eh ben, on l'occupait à côté de soi, en chemin faisant. Et donc, c'est à côté de ma grand-mère que j'ai appris à faire toutes sortes de gâteaux, à côté de mon grand-oncle, qui était un très très bon cuisinier. Pour la petite anecdote, il était mécanicien à bord de bateau, à Antibes. Et un jour, un bateau arrive très en panne et s'adresse au mécanicien pour le réparer. C'est le bateau de l'Agacan. Mon grand-oncle, sur le quai, leur dit « Ok, on va s'occuper de votre bateau, on termine juste notre déjeuner ». Et il faisait un barbecue avec des choses extraordinaires dessus, tellement que l'Agacan, alléché par les odeurs, est descendu du bateau et a fini par embaucher mon grand-oncle comme cuisinier, qui est parti donc 3 mois à bord du bateau de l'Agacan comme cuisinier personnel de l'Agacan.
Cuisinier mécanicien, elle a fait une bonne affaire, ouais. L'Agacan.
Cuisinier mécanicien, c'est une bonne affaire. Et surtout, moi, je faisais une bonne affaire en allant cuisiner chez mon oncle qui m'a appris à cuisiner avec tout ce qu'il avait dans son potager, tout simplement. C'est comme ça que j'ai appris une cuisine simple, une cuisine sans livre de cuisine, où on fait à l'inspiration avec les produits qu'on a choisis parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont alléchants.
Et c'est cela que vous vouliez transmettre à vos enfants?
Voilà, parce que c'est pas quelque chose qui s'écrit dans les livres. Cette espèce d'instinct qu'on va avoir de trouver un légume, d'inventer un mode de cuisson, de le marier avec telle épice ou telle viande, etc., c'était écrit nulle part. Comment faire pour le transmettre? Surtout dans cette période où finalement, moi je suis comme ma mère, je travaille, donc j'ai pas beaucoup de temps à leur côté, et quand je cuisine vite, entre deux, avant qu'ils arrivent, ou alors en temps masqué finalement. Voilà, mon temps de cuisine, il est en temps masqué. Alors comment faire pour être en situation d'exposition alors que je cuisine d'une manière aussi invisible par rapport au temps de la famille? C'était pas un temps partagé.
Voir faire.
Ah ben c'est ce que, enfin oui, et d'ailleurs pas que dans ce domaine-là, dans beaucoup de domaines, que ce soit pour le savoir vivre ensemble, justement, c'est cette transmission qu'on ne désire pas, et la transmission qu'on désire, la conclusion de mon master, c'était que on transmet d'abord les choses qu'on vit soi-même. Et donc, si un professeur de mathématiques veut enseigner les mathématiques à ses élèves, il ne faut pas qu'il sorte son savoir seulement des livres, mais qu'il va d'abord transmettre son désir lui-même des mathématiques, son amour des mathématiques. La passion va se transmettre. Et de la même façon, si vous ouvrez des boîtes et que vous sortez des sacs de votre congélateur pour vous débarrasser vite fait d'une corvée, eh bien, rien ne se transmettra. Alors que si vous choisissez vos légumes, que vous les tâtez, que vous hésitez un petit peu, c'est cette hésitation, ce questionnement par rapport à « qu'est-ce que je vais faire ce soir ?» Eh bien, vous allez transmettre ce questionnement-là à vos enfants. Et la façon que vous allez avoir de résoudre ce dilemme ô combien quotidien, n'est-ce pas? On sait tout ça. Mais oui, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et puis, cette façon d'inventer, c'est le bricolage qui est le génie humain avec ce qu'on a sous la main.
Juliette me disait quand je ne voulais pas manger 8 jours sous un baquet de bois, rien qu'avec des coquilles de noix, vas-tu ne tordrais plus le nez devant ton déjeuner? Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Juliette me disait quand je réclamais à manger, ben tu n'as qu'à manger ta main et garder l'autre pour demain. Pense donc aux petits chinois qui n'ont pas ce que tu as. Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Juliette me disait quand je voulais encore manger, tu as les yeux plus gros que le ventre, mais t'as raison, pourvu que ça rentre, c'est pas avec l'eau des glaçons qu'on engraisse les cochons. Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Mange, mange, tu sais pas qui te mangera. Qui te mangera?
Est-ce que vous parlez à table de ce que vous mangez? Comme vous avez 5 enfants, on a toujours l'idée préconçue de la famille assez traditionnelle, donc prenant ses repas à table, même si c'est une chose qui se perd. Donc, est-ce que vous parlez nourriture avec les enfants?
Alors, non, pas spécialement, parce que les repas à table, on va plutôt donner la parole aux enfants pour qu'ils puissent débriefer leur journée, ça c'est important, qu'ils puissent rapporter à la maison, au sein de la famille, les moments qui ont été importants pour eux. En revanche, si nous, mon mari et moi, on n'est pas très affairés à parler des repas, en revanche, les enfants en parlent. J'ai une anecdote récente où des amis sont arrivés et ont apporté le repas parce que c'était prévu comme ça. Et mon petit garçon a dit « Ah bah dis donc, je savais pas qu'il y avait des mamans qui cuisinaient aussi bien que maman. » Alors bon, bien sûr, c'est flatteur, mais il a pas beaucoup d'expérience, mon petit garçon. Faut pas croire que je cuisine de manière extraordinaire. Et ma petite fille a dit « Oui, d'ailleurs, maman, il faudrait que tu te remettes un peu à faire des gâteaux parce que Kitri, elle est en train de te dépasser. Une tarte au citron sublime. »
Donc, ils apprécient.
Oui, oui, ils apprécient. Ils apprécient. Et puis, je pense que ce qu'ils goûtent, c'est surtout la diversité.
Vous vous faites des choses très très variées.
Un petit peu parce que j'ai beaucoup d'imagination et un petit peu parce que comme j'ai pas le temps de faire des courses et que des fois je bricole vraiment avec pas grand chose, il faut bien arriver à inventer des choses. Puis on a la chance en habitant en Bretagne d'avoir des marchés où il y a des produits qui sont très agréables. D'ailleurs, j'ai deux de mes enfants qui vivent sur Paris en ce moment et quand ma fille part à Paris, elle emporte toujours 2 ou 3 kilos d'oignons de Roscoff.
Parce qu'elle me
dans
dit
le train, c'est magique. Oui, oui, elle met ça au fond de son sac à dos et elle me dit qu'avec un oignon, c'est magique, qu'on peut tout faire.
Elle n'a pas complètement tort.
Non,
mais
un oignon revenu à la poêle avec 2 œufs dessus, un oignon frit avec des pâtes, un oignon avec des épinards frais, à chaque fois, ça embellit beaucoup le repas.
Et est-ce que, parce que c'est un problème que rencontrent un certain nombre de parents, des enfants qui ne veulent jamais goûter des choses nouvelles ou qui sont vraiment accrochés à quelques grands classiques dont ils ne veulent pas sortir, vous n'avez pas rencontré cette difficulté-là ?
Alors, j'ai l'impression que du fait que j'ai toujours eu une cuisine très variée, ils ont été habitués petits à avoir des goûts très variés. Il y a une chose qu'ils ne mangent pas facilement, c'est le poisson, mais c'est plus par la flemme de devoir trier des arêtes et puis d'avoir des morceaux un peu hétérogènes avec des parties peau, des parties qui ont des goûts différents. Je pense que c'est plus ça qui leur complique la vie. Mais non, sinon, ils mangent à peu près de tout.
Et est-ce qu'il y avait une grande différence entre votre vécu, ce que vous aviez à transmettre, et ce que votre mari et la famille de votre mari, sur le plan de la cuisine bien entendu, voulaient transmettre? Parce que quelquefois, dans un couple, on n'a pas du tout la même histoire dans ce domaine-là.
Oui, alors mon mari vient d'une famille où il y avait un papa qui était très malade, et donc la maman a toujours cuisiné des choses extrêmement simples, des pizzas du marché toutes faites ou des surgelés tout faits, avec très très peu de cuisine. Et du coup, il aimait pas du tout les légumes. Mais c'est vrai que, en revanche, moi j'ai des façons d'accommoder les légumes, puisque donc avec les potagers de mes grands-parents, il y avait beaucoup de légumes à table, et on a des façons extrêmement variées d'accommoder les légumes, simplement au four cuit. Comme dans les pays du Sud, où on fait juste suer les légumes, ou alors juste à la poêle croquant, des petits brocolis sautés à la poêle, à peine juste pour les réchauffer, sur lesquels vous avez jeté quelques oignons que vous avez fait frire dans une première poêlée, et vous mettez par-dessus avec de l'ail, si vous supportez. Un petit bout de gingembre aussi. Je fais un petit mélange avec du gingembre, de l'ail, de l'oignon, et puis des oignons verts. Je fais revenir tout ça, j'enlève, je mets mes brocolis juste à sauter 2 minutes, et hop, je remets mon mélange d'herbes par-dessus. C'est absolument sublime, et c'est fait en 5 minutes, et ça accompagne n'importe quelle viande, ou ça se mange tout seul le soir, ou sur des pâtes, sur des spaghettis, c'est très bon. Et ce petit goût d'épices variées sur des brocolis sautés, c'est délicieux. Et puis, c'était une recette que m'avait donnée une amie chinoise. Ils mettaient des champignons noirs, des gingembres et de l'ail. Et puis moi, j'avais amélioré avec nos produits d'ici. Donc, j'enlève les champignons noirs et puis je mets des oignons. Mais j'ai essayé, ça marche avec tout. Vous faites ça avec aussi bien du chou-fleur, avec des navets, avec des poireaux, avec de la courge, du potimarron, bien sûr des pommes de terre. Hein, ça fait des pommes de terre. Ça ressemble à... Voilà. Mais vous prenez n'importe quel légume que vous faites sauter un tout petit moment avec un mélange de condiments frits et vous avez des légumes délicieux.
Donc si j'entends bien, il y a la transmission familiale, il peut y avoir aussi la transmission, et on le voit de plus en plus, on peut dire que la cuisine s'internationalise, où il y a des croisements beaucoup entre des cultures culinaires différentes. La transmission se fait aussi par les amis, par l'environnement, malheureusement aussi quelquefois par les médias.
Exactement, je pense que c'est l'environnement, mais je pense pas qu'il y ait de différence de transmission. En fait, c'est cette curiosité qui est le propre de l'homme, en fait, de se demander, tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Lévi-Strauss parlait de la pensée sauvage, qui nous permet de qualifier notre environnement en disant ça, c'est sécurisant, ou ça, c'est dangereux, ça, c'est bon à manger, ou ça, c'est pas bon à manger. Et petit à petit, en séparant à droite et à gauche le bon grain de livret, l'homme, finalement, va arriver à savoir qu'est-ce qui va lui permettre de se nourrir. De la même façon, cette curiosité qui nous fait interroger le monde fait que quand vous allez au restaurant, vous dites « Ah tiens, ça c'est bon, comment est-ce que ça a pu être fabriqué, ce machin-là » Et puis vous regardez un petit peu l'assemblage et puis vous refaites à la maison. Et ça, c'est amusant pour le cuisinier. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, on en parle. C'est que si on va au restaurant à table avec les enfants, c'est très très rare, parce qu'avec 5 enfants, vous n'allez pas très souvent au restaurant. Mais on est là, et puis je nous assiette en disant, d'après toi, comment ils ont fait ça? C'est quoi ce goût derrière, etc. On a eu des énigmes fameuses où il a fallu appelé le cuisinier pour savoir qu'est-ce qu'il avait mis dans sa sauce, parce que vraiment, c'était indéchiffrable.
Et il a accepté, parce que quelquefois, les cuisiniers sont...
Oh non, jamais. Je n'ai jamais vu un cuisinier qui refusait de donner son secret, tellement il est flatté quand on s'intéresse à sa cuisine.
Oustoul, Capobet.
Have a good meal.
Voulez bien pas comer ça?
Bon appétit.
Marie, bonjour.
Bonjour Sophie.
Aujourd'hui, parlons laitage peut-être.
Laitage.
Il y a beaucoup à dire sur le lait.
Le lait. Alors, il faut savoir que le lait, il n'y a pas que le lait de vache. Je tiens à le préciser. Il y a également le lait de piquette. Et puis également de très bons laits que l'on trouve souvent en magasin bio. Ben, du lait de soja qu'on connaît bien, d'amandes, d'avoine, de riz. Et surtout les crèmes associées, crème d'avoine, crème d'amande, qui sont vraiment d'excellents substituts au lait si on est intolérant au lactose. Et je dois dire que les recettes sont excellentes, souvent moins chargées en cholestérol.
Et gustativement parlant, sont-ils intéressants ?
Il faut les tester. Moi, il y a certains que j'aime moins. Par exemple, le lait d'Allemande, j'ai l'impression d'avoir de la colle qu'on avait autrefois là.
Oui,
mais je sais que j'ai des personnes autour de moi qui adorent le lait d'amande. Moi, j'adore le lait d'avoine.
Oui.
Et la crème d'avoine. Voilà, je voulais.
Non, c'est juste pour dire, peut-être que c'est intéressant d'essayer, même si on n'a pas d'intolérance.
Surtout qu'on les trouve en petites briquettes, donc on peut facilement les essayer.
Faire des essais.
Et voilà, faire des essais.
D'accord.
Et sinon, quelque chose qui est intéressant, mais pour le lait, on prend du lait entier. Si vous mettez une coupelle de lait entier dans votre réfrigérateur,
oui,
vous le mettez, donc là, cette petite coupelle, elle aura pour effet de garantir un réfrigérateur sans odeur. La graisse du lait se charge des odeurs.
D'accord.
Voilà.
C'est pour ça qu'on dit toujours de ne jamais laisser un produit laitier protection.
Sans protection, on va mettre un film ou un couvercle parce que, voilà.
La graisse absorbe les odeurs.
Absorbe les odeurs.
C'est bien de le savoir.
Et le fromage, comment le conserver ?
Là, ça dépend peut-être du fromage, du type de fromage.
Mais au niveau des odeurs, parce que des fois, Eh bien, mettez à côté de votre fromage une branche de thym. Comme ça, elle absorbera les mauvaises odeurs.
De fromage ?
Oui, oui, oui.
Ah, c'est intéressant.
Oui, oui, oui.
Ça peut peut-être un truc aussi sur un plateau de fromage, parce que quelquefois, c'est vrai que...
Voilà, sur un plateau de fromage, on met la cloche par-dessus ou un film plastique. Et là, les odeurs sont absorbées par la branche de thym. Et puis, comment conserver le fromage râpé ? Des fois, on les retrouve un petit peu avec de la moisissure.
Tout à fait, ou sec.
Ou très sec. Eh bien, mettez donc un petit bout de pain dedans votre sac où se trouve votre fromage râpé. Ainsi, vous évitez l'humidité. Le fromage aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire des mélanges. Parce que souvent, on parle de mettre que du gruyère ou tout ça. Profiter.
D'ailleurs, souvent, quand on parle de gruyère, on veut dire emmental.
Emmental, enfin bref, on fait un amalgame. Et justement, jouer les associations, parce que vraiment, on a beaucoup à gagner de ce côté-là.
Donc, par exemple, du comté,
du comté, du Beaufort, de l'emmental, les fromages italiens aussi, comme le parmesan. D'accord. L'association est très, très intéressante.
C'est vrai que le parmesan, c'est parfumé.
C'est très parfumé. Mais des fois, pour adoucir un petit peu le côté un petit peu qui ne plaît pas forcément aux enfants, eh bien, l'association avec, par exemple, de l'emmental est excellente.
D'accord. Très bonne idée.
Alors, sinon, quand on râpe du fromage, faites-le avec un fromage plutôt froid, boire un petit peu au congélateur juste avant.
D'accord.
Et il se râpe très très bien.
Excellent.
Mais pas longtemps, hein. Pas longtemps.
Non, non.
Et vous savez qu'on peut congeler le fromage. C'est une bonne idée.
On peut même congeler le fromage. Là, on parle de gruyère, mais je sais qu'on peut congeler des fromages du genre camembert, brie. C'est vrai que quelquefois, ça peut ou dépanner, ou quand on a fait un grand plateau de fromage,
voilà,
et qu'on a eu des invités.
Et qu'on n'a pas mangé du fromage pendant... Oui, et ça, souvent...
Ça permet
alors, bien entendu,
d'étaler.
Je pense que les puristes trouveront ça sacrilège. Mais écoutez, de temps en temps, ça peut... Je ne vais pas dire...
Ça va dépanner.
Oui, voilà, ça dépanne.
Eh bien, merci Marie pour ces toujours très intéressants petits trucs. À bientôt.
Au revoir, Sophie.
Au revoir.
הלילה רב שירנו הבוקע לשמיים. שובי שובי הורתנו מחודשת שבעתיים. שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לה סוף, כי עוד נמשכת השרשרת. כי ליבנו לב אחד מעולם ועד היד, כי עוד נמשכת השרשרת.